pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
On trouve des milliards de dollars pour faire la guerre, on trouve pas des milliards de dollars pour faire la paix. La guerre, elle a toujours été une histoire de gros sous. La Seconde Guerre mondiale, si on essayait de calculer le prix qu'elle a coûté, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de fortune dans le monde pour payer ce que ça a coûté. Alors l'argent vient de où ?
On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, disait Anatole France. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas, et ça c'est de Paul Valéry. Deux citations qu'on vous rappelle tous les ans, aux alentours du 11 novembre, pour une émission autour de la grande boucherie de 14-18 ou de la grande boucherie mondiale suivante. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, et aujourd'hui, on va évoquer la bêtise belliciste en un lieu qui concerne justement les deux guerres mondiales. Vous voici au fort de la Malmaison, dans l'Aisne, département 02, sur la ligne de front du Chemin des Dames de 14-18, où des centaines de milliers de poilus français et allemands ont trouvé une mort atroce. Et à côté du fort de la Malmaison, dont on va vous raconter l'histoire ridicule, se trouve un cimetière militaire allemand où reposent les corps de milliers de soldats de la Wehrmacht, tombés non pas en 14-18, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Impressionnant, émouvant paysage de milliers de croix en métal noir, symétriquement alignées, l'effet visuel est tel qu'on pourrait penser à une installation de Land Art, mais non, c'est une immense nécropole parsemée d'arbres majestueux. Et votre guide pour cette balade s'appelle Didier Ledet. Didier, vous le connaissez peut-être déjà si vous avez écouté nos reportages sur les bunkers français d'Hitler, le quartier général de la Wehrmacht construit pendant la Seconde Guerre mondiale au ravin du Loup de Margival, pas très loin de Soissons. Et pour notre expédition du jour, vous voilà sur un lieu de travail de Didier, chargé d'entretenir des cimetières militaires du coin. Alors que ces deux guerres mondiales sont finies depuis longtemps, enfin semble-t-il, mais qu'aujourd'hui d'autres guerres grondent pas si loin de nous, et notamment à l'Est, Didier va, pour vous, évoquer des pans d'histoire, comme l'histoire absurde du fort de la Malmaison, ou comme l'histoire de ces millions de tonnes de ferrailles et d'explosifs dont le sol de la région est encore gorgé. Il va aussi être question des soldats juifs de la Wehrmacht, qui se bâtirent lors de la campagne de France de 1940. Et on va commencer avec l'histoire du Chemin des Dames. Bonjour Didier.
Bonjour. Ici, on se trouve sur l'emplacement du fort de Malmaison. C'est un haut lieu de l'histoire du Chemin des Dames. C'est un endroit qui a vécu 4 ans de guerre, du mois de septembre 1914 jusqu'au mois de juillet 1918. Et ici se trouve le cimetière allemand du fort de Malmaison. Alors, cimetière allemand qui, par paradoxe, est un cimetière Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands y ont regroupé tous les soldats morts pendant la bataille de France de 1940 sur le Chemin des Dames.
C'est un lieu très impressionnant, hein. C'est un cimetière militaire avec des croix noires en fonte, un lieu évidemment qui inspire le recueillement et le respect.
Ça a été la volonté du gouvernement allemand avec l'association Wolfsbund, c'est de créer des lieux de recueillement et surtout c'est la devise de l'association, c'est réconciliation au-dessus des tombes. C'est fait pour être un endroit paisible avec ses gros arbres et puis... cet espace naturel calme. Voilà.
On va probablement aujourd'hui évoquer aussi l'étrange histoire du fort de Malmaison, un fort de 70 qui finalement aura surtout servi pour tester des munitions françaises. Sur le chemin, alors déjà il y a des mots clés qui donnent le frisson. Chemin des Dames, cette ligne de front qui va bouger de manière invraisemblable sur tout ce territoire-là, avancer, reculer, lieu de massacre, de boucherie. Et je vais te faire un aveu en venant pour te rejoindre ici. Je suis passé devant un panneau qui indiquait Craon.
Ça m'a fait un frisson dans le dos. Hein.
Je suis né à Craonne en 1966. Mon grand-père était artificier des mineurs sur chemin des dames. Et j'aime à dire que j'ai été bercé entre le canon de 75 et la mitrailleuse Maxime. Quoi. Moi, j'ai passé mon enfance à galoper dans les tranchées, à descendre dans les souterrains, à gratouiller dans les champs. Et le chemin des dames, un nom bucolique pour un endroit de massacre.
C'était les filles de Louis XV ?
C'est bien les filles de Louis XV. Alors, à l'époque des filles de Louis XV, alors on a toujours l'impression d'avoir des jeunes filles, des petites filles, tout ça. En vérité, lorsqu'elles viennent ici, elles ont 60 ans et elles viennent qu'une seule fois. Ce chemin s'appelle le chemin des dames parce que leur dame de compagnie, Madame de Narbonne-Lara, avait invité les dames de France à venir en villégiature au château au moment des chasses d'automne. Le chemin qu'elle devait emprunter entre Soissons et le château de la Beauve à Bouconville-Vauclair était un chemin de chartier, donc c'était des trous, des bosses, des ornières, des fondrières. Et elle avait demandé au bailli de Soissons de faire restaurer ce chemin pour que ça soit carrossable. Le bailli de Soissons a demandé à ce que les villages limitrophes de ce chemin-là fassent un crédit d'impôt sur la taille. Les hommes devaient donner un travail d'intérêt général au roi. Malheureusement, les villages avaient déjà travaillé trop pour le roi. Et ça fait un petit scandale. Par exemple, le village d'Austel, au nord du chemin des dames, a décidé de refuser. Et donc, ça fait une petite polémique. Et de là, on a appelé ça l'histoire du chemin des dames. Et c'est resté. C'est une histoire de gros sous encore qui a amené ce nom-là. Alors, il y a eu des légendes sur le chemin des dames. Mais en vérité, elles sont venues qu'une seule fois. En plus, je te dis, on a toujours l'impression que c'était des jeunes filles. On les voit avec leurs belles robes. En vérité, c'était des mémés. Elles n'ont pas apprécié leur séjour à la Beauve. En plus, c'était en plein hiver, des châteaux qui sont grands, qui sont froids. Et elles sont reparties le lendemain.
Tu parlais de ton grand-père et toi qui es un enfant du pays. Quand on s'est rencontrés, donc tu t'es présenté à nous en tant que historien amateur, et j'ai beaucoup aimé cette définition que tu donnes de toi-même, fouilleur de trous. Quand tu étais gamin, t'adorais explorer. Enfin, quel incroyable terrain de jeu.
J'ai toujours ce virus-là. Je peux pas m'empêcher. Dans la voiture, j'ai toujours une lampe, j'ai tout ce qu'il faut. Des fois, je roule comme ça. Et là, récemment, je suis passé devant un chantier forestier et j'ai remarqué, un banc de pierre. Tout de suite, j'ai fait le rapprochement avec une histoire de carrière qui avait été bouchée par les Allemands. Tout ça. Mais alors, maintenant que les arbres vont être dénudés, eh bien, je vais aller voir. Voilà, parce que ça m'intéresse. J'ai toujours aimé ça.
Petite consigne de sécurité. Tous les ans, la terre de ce pays continue à restituer des tonnes et des tonnes et des tonnes de ferraille, parfois des explosifs, et ça peut potentiellement rester très dangereux, en fait.
C'est tellement dangereux, puis c'est bien que tu poses cette question-là aujourd'hui, parce que ce matin, sur RTL, il parlait d'un accident qui a eu lieu en Normandie, des gens qui vidaient la maison d'un monsieur âgé, et ce monsieur avait récolté des obus, des cochonneries comme ça. Et il vient d'avoir un mort et deux blessés graves parce qu'en manipulant ses obus, il y en a un qui a explosé. Et ici, en 2020, ils ont ramassé 70 tonnes. Je dis ramassé, hein, 70 tonnes de munitions sur le chemin. Tous les ans, quand ils labourent, ça remonte.
Il y a juste à se pencher pour le ramasser. Voilà, c'est 70 tonnes par an.
Quand je dis ramasser, c'est ce que les labours remontent à la surface. Les cultivateurs mettent ça au bord des champs. Tous les ans, là on va arriver à la période des labours. Les mineurs passent toutes les semaines et ramassent ce que les cultivateurs ont mis au pied des pancartes, des monuments, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, il y a toujours ce risque d'engins qui peuvent exploser. Mais ce qui devient de plus en plus toxique, c'est les obus à gaz qui fuient. Souvent, les obus à gaz, ils ont une tête en aluminium et là, maintenant, avec 100 ans, l'aluminium est poreux. Les artificiers, maintenant, sont très attentifs à tout ce qu'ils ramassent. Eh bien, il suffit de ramasser un obus et puis de se contaminer. Et le gaz est toujours actif. Alors, c'est pas du gaz, c'est du liquide qui se gazéifie au moment de l'explosion, mais ce liquide est toxique. Le démineur m'a expliqué qu'on a les mains qui rougissent, qui commencent à gonfler, à brûler, et c'est une intoxication à l'hypérite, et c'est encore très actif. Alors, l'hypérite, c'est un poison très intelligent. Il pénètre par les voies respiratoires ou par contact avec la peau. C'est un gaz vésicant qui produit des cloques, tout ça. À l'intérieur du corps, il fait éclater les alvéoles pulmonaires et les gens contaminés mouraient noyés dans leur sang. Voilà, les chimistes allemands...
Hyperite, c'est pas le nom originel qui est donné, on dit hyperite parce que ces gaz auraient été employés pour la première fois sur la bataille de Ypres, Belgique. Ouais,
c'est ça. L'hyperite, on l'appelle aussi le gaz moutarde. Le nuage est jaune-vert et il y a une légère odeur de moutarde, mais bon, ça j'ai jamais senti. Et je ne veux pas sentir.
Oui, tant qu'à faire. Pendant qu'on parle de ça, j'ai moi entendu que beaucoup de ces munitions, notamment de 14-18, mais aussi celles de la boucherie d'après, beaucoup ont été immergées aussi dans l'océan. Ça se corrode. Il y a des milliers de tonnes, notamment de gaz toxiques et de produits toxiques qui sont répandus dans les mers. Les munitions se décomposent.
Après la guerre de 14, ils ont rempli des bateaux de guerre. Quelquefois, c'était des bateaux de guerre allemands qui avaient été confisqués. Ils les ont remplis de toutes ces munitions toxiques, que ça soit obus finis, ça veut dire prêts à tirer, ou alors des fûts de produits chimiques, et ils les ont coulés en mer du Nord. Alors aussi bien les Anglais, les Français, les Américains, les Allemands, tout ce qui était toxique. Il existe des vidéos où on voit ces fûts en acier qui laissent échapper quelques gouttelettes de produits. Alors, ils ont basé ça sur la dilution dans la masse de la mer. Je crois aussi qu'il y en a aussi en Méditerranée. On arrive à trouver des milliards de dollars pour inventer des armes pour tuer, et on n'arrive pas à utiliser cet argent-là pour faire la paix. C'est l'homme, l'être humain.
Les joies du capitalisme. On se retourne là vers donc ce paysage, ce champ de croix très paisible. On entend le chant des oiseaux. J'ai entendu dire aussi qu'il y a tellement de munitions qui ont été tirées sur ce coin de la ligne de front de 14-18 qu'on a aussi planté des arbres et des chênes pour que les racines retiennent les munitions dans le sol.
Non, ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, ici, le chemin des Dames a été classé en zone rouge, zone très dangereuse. Surtout, c'est qu'il fallait remettre en culture rapidement ou alors effacer les traces de la guerre. Et donc, on a replanté. Il y a eu une grande campagne sur le chemin des Dames de plantation de conifères, puisque on a replanté énormément d'arbres, et surtout c'est qu'on a fait des arboretums pour voir quels étaient les arbres qui résistaient le mieux au sol contaminé. Et on s'est aperçu que tout reprenait. La nature, elle a repris quelques semaines après les durs combats et l'armistice de 1918. L'herbe repoussait dans les tranchées. Mon grand-père est arrivé en 1920 ici, comme responsable du déminage à Craon. Il disait que c'était des champs de ronces. De ronces, d'herbes folles, les ronces avaient grimpé dans les barbelés. Voilà, ça a été un très gros travail de remise en culture. Donc cette forêt-là, elle a été une forêt test. Et puis après, la nature reprend ses droits. Là, le fort de Malmaison, que l'on va visiter, la forêt a poussé toute seule. Hein. Des friches ont poussé quelques bouleaux, quelques frênes, quelques charmes. Et puis après, la nature reprend, les oiseaux font leur travail. Et puis voilà. C'est une forêt qui n'a pas été plantée. Puis elle se gère toute seule. Ici, le département a dépensé des millions d'euros pour restaurer, remettre le fort, pas en état, mais en état de visite. Mais ils se sont aperçus, après avoir fait tout ça, qu'ils avaient oublié de faire passer le déminage. Et donc, le service du déminage a dit, nous, on ne peut pas parce que c'est un terrain privé, puisque ça appartient au département. Nous, on ne peut intervenir que dans les cas de dangerosité ou sur les terrains militaires. Donc il a fallu faire venir une entreprise de déminage privée qui a dit, bon, ben, c'est simple, hein, on prend le détecteur, à chaque fois que ça fait bip, c'est 10 francs, à l'époque c'était en francs, chaque fois qu'on creuse, qu'on trouve une munition, c'est 1000 francs. Donc ici, ben, tu prends un détecteur, tu fais bip, 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 c'est irréalisable, parce que ça va sonner au moindre clou, au moindre éclat d'obus. Ici, si on allait dans le champ en face, après les betteraves, tu prends une bande de 10 mètres de large sur 10 mètres de long. Si tu ramasses tous les éclats, tu as un kilo de ferraille. Voilà. Donc, c'était pas réalisable. Donc, cette forêt-là, elle a été sur le chemin d'âme plantée. Et puis ailleurs, ça a poussé naturellement. Ça a repoussé. L'homme, après la guerre de 14, ceux qui sont revenus ici, c'était pas des feignants. Hein. C'était pas des feignants parce que quand tu veux remettre en culture des champs de bataille, il faut reboucher les tranchées, les trous d'obus, il faut arracher tous ces réseaux de barbelés qu'il y avait partout, démunitionner, donc ramasser les obus, les emmener dans les champs d'explosion pour les faire exploser. Ceux qui ont repris la culture après, ils avaient du courage.
Ça t'arrive, toi, de tomber sur des munitions?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Comme j'aime bien aller me promener dans les bois, là, si on voulait, on va de l'autre côté du champ, là, à 500 mètres, sur une bande de 5 mètres entre le champ et puis le 5 mètres de talus, c'est pourri d'obus. Parce que les cultivateurs, ils ne s'embêtent pas, ils les balancent dans les ravins et puis ça reste là. Les artificiers, un jour, me disaient, mais si on voulait ramasser tout ça, mais on passerait nos journées entières. Le versant du champ, là, t'as un obus tous les mètres. Parce que les cultivateurs, quand c'est près de la route, ils mettent au bord de la route, mais quand c'est trop loin, ben, ils balancent dans le bois, puis c'est tout. Et il y en a des centaines de tonnes. Dans les 48 heures qui ont précédé la bataille du fort de Malmaison, au mois d'octobre 1917, les Français ont tiré 6 millions d'obus sur une bande de 6 kilomètres. De la ferme de la Royère jusqu'à l'Ange Gardien, début du chemin, 6 millions d'obus en 48 heures. Ça va du 75 mm français jusqu'au gros 420 de marine qui était chargé de détruire les carrières souterraines qui sont sous le fort.
On est sur ton lieu de travail ici, dans ce cimetière allemand.
Levé d'école, le Wolfsbund, c'est le service d'entretien des sépultures allemandes, le SESMA aussi. Notre travail, nous, c'est que ces nécropoles soient toujours en parfait état d'entretien pour que les familles, les visiteurs puissent venir soit se recueillir, soit découvrir un peu, comme tu disais tout à l'heure, le résultat de la barbarie. Voilà. Alors ici, on a 7000 soldats allemands. Il y a deux femmes, des infirmières, et ils sont pour la plupart tombés pendant la campagne de France du mois de juin 1940 sur le chemin des Dames, lorsque le général Weygand avait décidé d'arrêter les Allemands sur l'Aisne. Malheureusement, ils allaient beaucoup plus vite que nous.
7000 personnes inhumées ici, deux fois moins de croix, parce qu'il y a deux soldats par croix.
C'est ça, ils sont deux par croix. Dans les années 60, le VDK a repris beaucoup de cimetières, la plupart des cimetières allemands en France, et les a restaurés. On est passé de croix en bois individuelles à des croix doubles, comme ici. Donc ils sont tête à tête. Et dans certains cimetières 14-18, ils sont même quatre notés sur les croix. Mais il faut imaginer que la croix est au milieu des quatre corps.
Contrairement aux cimetières militaires alliés, ici on n'est pas en territoire allemand.
Non. On est sur un territoire français. Au départ, tous les cimetières allemands étaient gérés par le Souvenir français. Et c'est seulement en 1960, que le VDK va reprendre l'entretien de certains cimetières allemands. À la différence des Italiens, des Anglais et des Américains qui sont territoires de la nation. Ici, on est territoire français entretenu par les Allemands. Moi, j'entretiens 14 hectares de cimetières 14-18. Mais je fais français et allemand. Parce qu'il y a certains cimetières, ici on n'a qu'un cimetière allemand, mais dans certains endroits, on a les deux nationalités côte à côte. Et des accords ont été passés avec le Souvenir français. Et c'est le service allemand qui a repris l'entretien des cimetières français. Alors différence, ces cimetières français, ce sont souvent des champs de croix, très peu d'arbres. Alors que les Allemands, ce sont des forêts. Très peu de fleurs, mais beaucoup de verdure, donc des arbres. Ici on a une collection de chênes d'Amérique et de chênes pédonculés. Dans d'autres, c'est des pins noirs d'Autriche. Dans d'autres, c'est des forêts de boules, des forêts d'érables. Voilà.
Le fort de Malmaison, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui?
Je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce fort. Déjà, l'histoire de sa construction, pourquoi il a été construit, comment. Ensuite, son histoire pendant la guerre de 14 et de sa reconquête par le 4e Zouave au mois d'octobre 1917. Faire un parallèle entre le général Pétain de l'époque et le général Nivelle. Deux grands généraux de la Première Guerre mondiale qui se sont connus à Verdun et qui se sont retrouvés ici en 1917. Ça va être de l'histoire, mais aussi un peu de politique.
Oui, non, je t'avoue que j'ai les chines qui se raidissent un petit peu. Bon, parce que Pétain, Nivelles ne m'inspire guère plus, parce que Nivelles, pour moi, c'est les grandes boucheries inutiles des offensives Nivelles.
On va en parler. Mais Pétain, c'est à l'époque, c'est le général Pétain, c'est le sauveur de Verdun. Voilà, on va parler de Pétain, Première Guerre mondiale.
Il paraîtrait que ça relève un peu de la mythologie que Pétain n'était pas aussi un bon stratège que ça.
Pétain n'était pas un stratège militaire, c'était un organisateur. Très bon dans la logistique, dans la voie sacrée, Pétain avec Verdun, tout ça. C'était pas un tacticien comme Nivelles. Nivelles, c'était un offensif. Lui, il avait des idées de bataille, tout ça. Pétain était beaucoup plus réservé. À Verdun, par exemple, il a beaucoup travaillé sur la logistique, faciliter la montée des troupes sur la ligne de front, des choses comme ça. On va le retrouver ici au mois d'avril 1917, mai 1917. Justement parce qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui va calmer les mutineries qui sont en train de monter dans l'armée française.
C'est très paisible, hein. On entend quoi, les voitures au loin et puis le chant des oiseaux.
Ah oui, ici c'est bucolique. Hein.
La perspective de ce chant de croix, là, c'est toujours très émouvant. Enfin, d'ailleurs, c'est fait pour ça.
Une photographe qui est venue il y a 2 ans de ça faire un reportage photo sur le cimetière. Il y a un arbre qui doit être quelque part par ici. On avait coupé une branche qui était blessée. Et donc, la cicatrisation a donné une forme à l'arbre. Et on a l'impression que c'est le cri de Munch. Le cri de Munch, comme si l'arbre disait « plus jamais ça ». Je m'étais même acheté la photo parce que c'était vraiment impressionnant. On voit cet arbre qui hurle. Les branches, les nœuds faisaient les yeux et cette branche coupée faisait une grosse bouche qui hurlait, comme s'il criait « plus jamais ça ».
Alors évidemment, toi, tu as l'habitude depuis le temps que tu travailles ici. Enfin, est-ce qu'il y a des moments où l'émotion de ce que ça représente te ressaisit ou c'est devenu de l'ordre du quotidien pour toi ?
Moi, c'est surtout pendant les cérémonies, lorsqu'on fait le Vorstaurtag tous les ans, mois de novembre. C'est au moment des cérémonies qu'on ressent l'ambiance. Lorsque tu as tous les porte-drapeaux qui sont alignés sous la chapelle, tu as les sonneries aux morts, les hymnes nationaux. C'est là où on prend, pour ceux qui sont sensibles, hein, comme moi, on prend conscience de tout ce gâchis humain, quoi. Comme disaient les vieux, hein, j'en ai connu, ils disaient que ça soit français et allemand, tu les mettais autour d'une table avec une bouteille de schnapps ou d'eau de vie, et puis ça devenait des camarades. Hein. C'est pour ça que les poilus, on dit toujours les poilus de 14, mais les Allemands s'appelaient aussi les poilus. Ils étaient camarades de souffrance.
Disait Paul Valéry, hein, la guerre c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas mais qui se massacrent au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas.
Ouais, c'est vrai. J'ai rencontré des anciens combattants quand j'étais enfant, français et allemands. Moi je les ai vus boire le coup ensemble. Ils racontaient leur misère mais ils avaient vécu la même chose. C'est malheureux mais les hommes qui se sont battus en 14... Ils ne se sont pas battus pour une idéologie ou une chose comme ça. Ils se sont battus parce qu'ils avaient connu la guerre de 70. Ils avaient vu les Prussiens envahir leurs fermes, piller leurs fermes, et ils ne voulaient pas que ça recommence. C'est pour ça qu'en 17, quand il y a eu les mutineries, les politiques d'extrême ont essayé de récupérer l'affaire. Mais en vérité, tous les gars qui ont été fusillés, la plupart du temps, ont été fusillés. Pourquoi ? Parce que c'est des gars qui avaient trop picolé, qui s'étaient montés le bourrichon, puis ils voulaient rentrer chez eux. Voilà, ils voulaient rentrer chez eux, terminer la guerre. Ils avaient bien compris qu'ils se battaient pour les marchands de canons.
On citait Paul Valéry tout à l'heure, hein, et aussi Anatole France qui disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ».
Ouais, bien sûr.
Tu restes des marchands de canons.
Il y a un très beau film qui s'appelle
« La vie est rien d'autre » de Bertrand Tavernier.
Voilà, où on voit cette usine au milieu des ruines, une usine qui est en parfait état, et cette usine qui est intacte, qui n'a pas pris un seul obus, parce que entre cousins, on ne se tire pas dessus. Quoi. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, hein, on trouve des milliards de dollars pour faire la guerre, on ne trouve pas des milliards de dollars pour faire la paix. Comme disait dans un livre, un repas de famille, un dimanche, des industriels qui sont à table, et puis il y a une petite fille qui racontera ça plus tard. Mon père et mon oncle, avec les cousins, disaient « une bonne guerre, c'est bon pour le commerce mmh. ». Ouais, une bonne guerre.
J'entendais l'autre fois à la radio sur France Inter, me semble-t-il, les journalistes s'extasiaient sur les performances du fameux canon César, made in France. Qu'est-ce qu'on était content d'en avoir refourgué aux Ukrainiens, hein, mais pour la démocratie, bien sûr.
C'est vrai, tu n'as pas tort. Et puis surtout, c'est que on se rend pas compte que on est belligérant dans l'affaire. Quand tu donnes des armes à quelqu'un qui est en guerre, bah, c'est comme si tu participais à sa guerre. Et les Français s'en rendent pas compte, c'est qu'on a mis le doigt dans un engrenage et pour le retirer, ça va être difficile.
C'est pas forcément le sujet du jour, mais bon, quand je vois des drapeaux ukrainiens qui pendouillent aux façades des mairies, évidemment j'ai de l'empathie pour tout le monde, y compris pour le petit troufion russe qu'on a mis dans un char sans lui demander son avis. J'ai de la peine pour tout le monde et bien sûr pour les civils massacrés. Mais enfin, la dernière fois qu'on nous a fait le coup, et il y a un archiduc qui s'est fait dessouder à Sarajevo, faut qu'on y aille. Côté français, ça a coûté 1 300 000 soldats morts, sans parler les gazés, les estropiés, les veuves, les orphelins, les machins. Et moi, ces histoires d'un siècle après, il se passe je sais pas quoi dans les Balkans ou à l'Est, une affaire qui ne nous regarde pas, mais il faut que ça nous regarde. Est-ce que l'histoire nous enseigne tant de choses que ça?
À la fin du compte, lorsque l'affaire sera finie, on s'apercevra d'une chose, c'est une histoire de sous. Une histoire de pognon. Le blé ukrainien que l'on a bloqué dans les ports pour faire monter les prix du blé en France, on attaque la campagne des betteraves ici, il y a eu la moisson cet été, je discutais avec un cultivateur, il me dit on ne sait pas où on va mettre le blé parce que les silos sont pleins de tournesols. Ils ont bloqué le tournesol pour faire monter les prix. Tout ça, ce sont des bulles économiques. Voilà, on se sert de la guerre qui est en Ukraine, pour faire un climat de peur. Attention, c'est la guerre, donc tous les prix vont augmenter, mais il n'y a aucune pénurie. Tu prends 1914, la France a tenu, grâce à qui? Grâce aux femmes. Les femmes qui ont été dans les champs remplacer les hommes sont montés au front, tout ça. Mais malheureusement, à la fin de la guerre, ces femmes-là, on les a oubliées. On leur a dit, bon, allez, c'est bien, maintenant vous retournez. Là, puis, pareil dans les usines, tout ça. Et la guerre, elle a toujours été une histoire de gros sous. La Seconde Guerre mondiale, si on essayait de calculer le prix qu'elle a coûté, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de fortune dans le monde pour payer ce que ça a coûté. Alors l'argent vient de où? En Amérique, il ne manquait pas un cent, pas un dollar pour fabriquer des bombes ou des balles ou des, n'importe quoi en 1945. 6 mois après, il y avait 1 million de chômeurs. Les usines ont vidé les... Voilà, la guerre est finie, maintenant rentrez chez vous. Heureusement que l'économie américaine a inondé le marché mondial avec des machines à coudre, des transistors, pour que l'économie ne s'effondre pas. Une entreprise qui fabrique des chars, du jour au lendemain, bah, c'est terminé, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on fait des ouvriers?
Quoi, la guerre froide, ça a été bien utile à certains.
Voilà, c'est ça.
Mais on s'est un peu éloigné de notre sujet, mais on reste toujours dedans, hein, parce qu'évidemment, quand on fait ces émissions autour du 11 novembre, il s'agit toujours de souligner l'absurdité de la guerre. Et finalement, c'est pas si absurde que ça. Hein. Il y a toujours de mauvaises raisons de pognon derrière tout ça.
Tu prends l'histoire de Sarajevo, l'archiduc, il avait été là-bas pourquoi ? Pour montrer la grandeur de l'Empire austro-hongrois. Il s'est pris une balle avec sa femme, voilà. Mais en vérité... Les peuples, ils n'avaient rien à voir dans cette histoire-là. C'était une histoire de territoire, d'argent, de pouvoir. Le Kaiser, il se prenait pour Bismarck, donc il voulait faire la guerre. Quelques jours avant la déclaration de guerre, il envoie quand même une lettre à son cousin, le roi d'Angleterre. Et le cousin lui répond, Vili, nous n'allons pas nous faire la guerre en famille. C'était une histoire de pognon. Bismarck avait réunifié l'Allemagne, il fallait que l'Allemagne soit grande. L'Empire austro-hongrois était décadent, l'empereur était vieillissant et tout. Le Kaiser voulait montrer qu'il était le plus fort. Et voilà.
Tu mentionnes ça parce qu'on ne le sait pas toujours, mais surtout sur 14-18, beaucoup des souverains et dirigeants des royaumes et pays d'Europe étaient des enfants, petits-enfants, neveux de la reine Victoria.
Hein,
ouais. Que ce soit Nicolas en Russie ou voilà, ceux que tu as mentionnés, en fait, oui, c'est une histoire de famille.
Quoi. Ouais, ils étaient tous cousins. Voilà.
C'est à cette époque d'ailleurs que les Windsor, qui ne s'appelaient pas Windsor avant, ils y portaient un nom allemand.
Hohenzollern, et ils ont décidé de changer de nom justement pour ne pas être trop germanisant. Quoi. Voilà.
Toujours dans ce cimetière allemand, lieu de recueillement, très impressionnant. Il est où le fort de Malmaison là ?
Dans ton esprit, fort de Malmaison, soit tu as l'image des forts comme on a à Paris, Vincennes.
Une espèce de fortification Vauban ou un...
Voilà, mais il ne faut pas oublier, c'est que ce fort a subi 4 ans de bombardement. Donc maintenant, ce sont des ruines et les ruines sont dans le bois juste derrière le cimetière. On va y aller directement.
On suit donc Didier vers les ruines du fort de la Malmaison, enseveli dans un petit bois qui borde la nécropole, où ici et là, parmi ces milliers de croix alignées, s'élèvent des arbres magnifiques.
Les arbres sont énormes. Regarde, tu dis des arbres, des chênes comme ça, ils ont 100 ans, tout ça. Et ces arbres-là ont été plantés en 1960. À l'époque, tous les ans, le service mettait une tonne d'engrais dans le cimetière. Donc, ils ont bien profité. Et surtout, c'est qu'ici, on dit que la terre du Chemin des Dames, c'est une terre qui est amoureuse parce que c'est une terre limono-argileuse. Une terre très riche, mais collante. Donc, les arbres ont beaucoup profité de ça. Et quand les bûcherons ou les élagueurs, là, on a fait une grosse campagne d'élagage parce qu'il y avait beaucoup de bois mort à enlever, et qu'on leur dit, mais les arbres ont été plantés en 1966... C'est pas possible. Ben, on leur montre des cartes postales de l'inauguration et les arbres sont 10 cm de diamètre. Et là, aujourd'hui, certains font, les gros chênes d'Amérique font près d'un mètre de diamètre.
Voilà. Je vois que sur quelques croix du cimetière allemand, là, il y a des couronnes. Ça veut dire que les gens qui sont inhumés là sont identifiés ?
Alors, ils sont tous identifiés. Il y a quelques soldats inconnus ici, mais la plupart sont identifiés. Et les couronnes que tu vois, ce sont les familles qui payent le service pour fleurir la tombe. Alors ici, on a des couronnes en mousse de Norvège. Quelquefois, on met des bouquets. Quelquefois, ce sont des bougies, des compositions florales. C'est les familles qui payent pour qu'on fleurisse leurs ancêtres.
Des milliers de noms et de prénoms s'étalent sur des milliers de croix de la nécropole. Hans, Rudolf, Franz, Gunther, et puis aussi Samuel, Jochen, Jacob. Surgit alors une histoire étonnante, celle de ces Juifs qui combattirent dans la Wehrmacht au cours de la Seconde Guerre mondiale. On estimerait leur nombre à 1200 environ, et dont certains sont inhumés au cimetière allemand de la Malmaison. Jacob.
On suppose que ce sont des Israélites, mais ils ont été enterrés sous une croix chrétienne. Les gens ici sont toujours étonnés parce qu'il n'y a pas de croix juive, alors que dans l'armée allemande, en 40, il y avait des juifs. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, la plupart des familles juives sont venues récupérer les corps. Sur certaines, nous, on a l'habitude, lorsque tu vois les noms, de consonance juive. Mais elles ont une croix chrétienne parce qu'il n'y a pas eu de distinction qui a été faite. Et je te dis, il y a beaucoup d'Israélites qui ont été exhumés par leur famille. Voilà. Adolf Hitler n'avait pas à l'époque fait de distinction. Un soldat allemand, c'est un soldat allemand. Alors que dans les cimetières 14-18, tu vois des stèles juives. Voilà. Et c'est une distinction qui a été faite. Voilà. Il y en a, ils ont vraiment des dénominations israélites.
Alors que c'est la campagne de 40.
Oui, c'est la campagne de 40 et il n'y a pas eu de distinction qui a été faite entre les Israélites et les chrétiens ou les protestants. Ils ont tous une croix chrétienne. Voilà.
Ah oui, d'accord. J'aurais imaginé en fait que les juifs qui étaient chassés de partout dans la société nazie de 1933 l'avaient aussi été de l'armée.
Non, non. Alors qu'on chassait les juifs d'Allemagne partout. Mais les juifs qui étaient dans l'armée allemande, eh bien, ont combattu, et sûrement pendant la campagne de France. Hitler les avait mis vraiment, il avait fait des, pas des régiments spéciaux, mais il avait bien encadré ce truc-là, quoi.
Il restait bon pour faire de la chair à canon, quoi.
Voilà, il avait fait une distinction entre l'allemand juif d'origine et le migrant juif qui était arrivé en Allemagne, voilà. Il y a un très bon article qui est paru dans un magazine Historia sur les régiments juifs d'Adolf Hitler.
Qui devait être bon à être envoyé en première ligne.
Voilà, c'est ça, c'est ça. On a un général qui est là-bas, un général qui a été tué par un obus en juin 1940. Alors certains nous disent, mais est-ce que vous avez des SS? Eh oui, on en a. Il y en a certains, voilà. Mais il n'y a pas de symbole SS sur leur tombe, voilà. Mais on le sait parce que en voyant leur régiment et puis leur grade, tout ça, on voit que ce sont des SS. Ils sont morts la plupart du temps au moment de la libération de Paris.
Oui, c'est le front de Normandie, beaucoup. Hein, qui... ouais.
Alors ici, on a même des marins. On se demande, on a des marins qui ont été tués, par exemple, à Lorient en 1944, qui sont ici, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a eu des regroupements. Allez, on va traverser le cimetière et puis on va aller voir le fort de Malmaison.
Il y a deux noms à chaque fois, par croix.
Ils sont tête à tête, voilà.
Voilà, Wilhelm, Karl, encore un Wilhelm, Ernst, Albert. Ouais.
Si tu regardes bien les croix, souvent tu vas voir que ces soldats-là sont morts. Là, il est 5 juin 1940, donc c'est au moment de la bataille de l'Aisne. Mais tu regardes leur date de naissance, 1917, 1916, 1918, 1919. Leurs pères, certains, sont même morts sur le chemin des dames. 1913, 1914, tu vois. C'est tous des enfants de la première guerre, endoctrinés par le régime nazi avec cette politique de la revanche, quoi. Voilà, le traité de Versailles, la honte du traité de Versailles. Alors, en parlant du traité de Versailles, les forts serrés de rivière que nous allons visiter sont le résultat du premier traité de Versailles. Lorsque la France, en 1971, a signé le premier traité de Versailles dans la Galerie des Glaces, où on a perdu l'Alsace et la Lorraine-Moselle, eh bien, les forts serrés de rivière sont le résultat de cette première défaite. On a perdu la guerre de 70, Paris a été envahi par les Prussiens, donc il a fallu signer ce traité de Versailles avec Bismarck. La honte de la défaite, la honte d'avoir été battu, la honte d'avoir perdu l'Alsace-Moselle-Lorraine, et il faut que la France redevienne une grande puissance. Voilà, donc on va rentrer dans cette politique de militarisation, de développement de l'industrie de guerre. Et la France va enfin découvrir les joies du canon de 75.
Le fameux canon de 75 dont Didier va vous reparler tout à l'heure. Le temps d'écouter cet hymne à la gloire de ce joujou.
Mis en petit joujou, 75, canon-là est un bijou, quand il tire, il ne rate jamais son coup, on peut dire, le 75, ça c'est à nous. Vous avez certainement, messieurs les Allemands, inventé de très colossales machines, avec lesquelles, j'imagine, vous pensiez terroriser les braves gens. Vos hangars étaient pleins de taupes et de zeppelins, qui tuent si bien les enfants et les femmes. Enfin, comme ultime réclame, vous aviez le 420. Mais nous avons dans tous les cas, n'oubliez pas, 75, c'est mis en petit joujou. 75, ce canon-là est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut 75, ça, c'est à nous.
Le 75, ça, c'est à nous. En l'honneur du canon de 75, merveille militaire française de 14-18, dont les projectiles pouvaient ricocher sur le blindage des chars allemands de 1940. Vous êtes toujours avec Didier Ledé, et on a traversé le cimetière militaire allemand en direction du petit bois où nous allons découvrir les ruines du fort de la Malmaison sur le chemin des Dames.
Dans la forêt. Il est derrière dans la forêt.
Tout à fait insoupçonnable, hein, parce que là, on voit des arbres vénérables.
C'est le terrain de jeu des foufous de guerre, les gens qui passent leur week-end avec des poils à frire à détecter. C'est des millions de petits éclats Alors attention, il y a une clôture électrique. Ouais. Des millions de petits éclats de ferraille qui vont faire sonner l'appareil.
Clôture électrique pour que les animaux de la forêt viennent pas
les sangliers
divaguer dans le cimetière.
Une fois, on a eu la moitié du cimetière qui a été retourné par les sangliers. Un sanglier, c'est une vraie charrue, hein, quand ça se met à gratter. Alors je vais ouvrir, on va attendre.
Ouvrir la clôture électrique.
On est au bord du fossé du fort. Donc le fort, il fait 270 mètres sur 230 mètres. C'est un rectangle. C'est une fortification serrée de rivière. Il a été construit entre 1875 et 1882. C'est le système de défense serrée de rivière après la défaite de 1871. En 1874, le gouvernement français décide de lancer une grande campagne de fortification en France, justement pour éviter ce qu'il venait de vivre. Et donc, le général serré de rivière, qui est un général du génie, mais qui a fait l'école d'application d'artillerie, décide de reprendre les lignes de fortification françaises, puisqu'on est toujours sur la fortification Vauban, qui a été légèrement améliorée, mais on est toujours sur ce système de fort semi-enterré. Et il va créer deux ceintures de défense, donc la première ceinture qui va de Verdun à Épinal, et la deuxième qui va de Hirson, Laon, La Fère, Reims. Deuxième ceinture de défense qui a pour vocation de protéger Paris. Et bien sûr, les forts aussi, les forts autour de Paris, qui sont la dernière ligne pour éviter l'envahisseur, le Prussien, de revenir. Alors ici, on est sur la place forte de Laon, qui comprend la citadelle de Laon, avec les régiments qui sont à Laon. Nous avons le fort de Lagniscourt, le fort de Bruyères et Montbéraud, le fort de Montenot, le fort de Malmaison et le fort de Condé, qui ont pour fonction d'empêcher un ennemi de monter sur Paris, soit en utilisant la vallée de l'Aisne, soit en utilisant la route Paris-Maubeuge, la Nationale 2. Ce sont des forts inspiration Vauban, ce sont des forts semi-enterrés. Alors la technique de ces forts, eh bien, on creuse un énorme trou. Et dans ce trou, on va construire des bâtiments. Souvent, ce sont des bâtiments voûtés, des voûtes de pierre, avec des casernements, des courtines, des plateformes de tir. Tout ça, c'est construit avec la pierre que l'on va chercher directement en dessous. Tout à l'heure, on ira dans une carrière qui a servi à la construction. Donc, pour gagner de l'argent, pour ne pas en perdre surtout, il faut le moins de transport possible. Donc ici, tout à l'heure, on verra un observatoire allemand en béton armé. Eh bien, il a été construit sur le puits qui permettait de sortir la pierre directement du sous-sol. Voilà. Alors, construction un peu bizarre parce qu'on est en 1874. Le général Serré de Rivière, qui est chargé de construire ces fortifications-là, qui a fait l'école d'application d'artillerie, ne prend pas en considération l'évolution de l'artillerie. On est passé du boulet de canon de Napoléon. En 1860, on invente le canon rayé et l'obus ogive. Ça veut dire l'obus qui va tourner dans l'âme du canon, qui va permettre d'avoir une meilleure précision. Et on invente aussi la fusée percutante. Ça veut dire avant le boulet, il y avait une mèche qui s'enflammait du canon et on calculait la distance avant l'explosion par rapport à la longueur de la mèche. Là, on a ce qu'on appelle une fusée percutante, ça veut dire l'obus explose quand il percute l'obstacle. Et Serré de Rivière n'a pas cherché à avoir la vision de l'évolution de l'artillerie. Donc il est resté sur cette fortification Vauban améliorée. À l'époque, on a des obus à la poudre noire, que tout le monde connaît depuis le Moyen-Âge. Mais en 1880, alors qu'on est en train de construire les forts, on invente l'obus à balles. L'obus à balles, c'est un obus qui a une fusée à retardement. Et cet obus n'explose pas au sol, il explose en l'air. Et dans cet obus, il y a à peu près 200 à 300 billes de plomb ou d'acier qui vont avoir pour vocation de détruire par le haut. Ça veut dire que ces forts qui ont été conçus avec des canons à ciel ouvert sur plateforme se retrouvent à la merci de ces obus à balles. Donc, déjà en 1880, alors que les forts sont en construction, on n'a pas l'idée d'arrêter la construction et de se dire on va réfléchir. Là, maintenant, les gars qui sont à leur canon sont à la merci de ces obus qu'on appelle les obus à shrapnel. Qu'est-ce que l'on fait? On va bricoler. On va faire des voûtes en pierre, des choses comme ça, mais ce n'est pas adéquat. Et surtout, c'est que ça coûte cher. Parce que les crédits ont été votés. Et les crédits ne sont pas élastiques. Et Serré de Rivière décide de continuer. Malgré tout, on continue. Donc, on invente cet obus à balles, qui est un danger pour les artilleurs. Mais en 1884, on invente la mélinite. La mélinite, c'est un explosif ultra puissant qui est 10 fois, voire 20 fois supérieur à la puissance de la poudre noire. Et cette mélinite, eh bien, il faut la tester. Le fort a été fini en 1886, 2 ans après l'invention de la mélinite. Et on se dit, qu'est-ce que l'on fait de ces forts-là? Il faut les tester, il faut voir s'ils résistent. Alors la construction, c'est des voûtes de pierre qui doivent faire normalement, théoriquement, 1 mètre d'épaisseur. Ensuite, un blocage en pierre dure maçonnée, d'une épaisseur d'à peu près 1 mètre. Et 3, 4 mètres, voire 5 mètres de terre sur les poudrières où il y a plus de protection. Mais entre le cahier des charges et la finition, il y a souvent des choses qui se passent. Et il va y avoir un scandale ici sur le chemin des Dames. C'est au fort de Montenot. L'entreprise italienne qui est chargée de construire, eh bien, il y a des malfaçons. On est passé de 1 mètre d'épaisseur de pierre à 50 cm. On est passé des 5 mètres de terre à 1 mètre 50, voire 2 mètres. Donc, cet entrepreneur italien va être accusé de malfaçon. Et il finira au bagne de Cayenne. Mais on s'aperçoit que tous les forts ont des malfaçons. L'épaisseur de pierre est insuffisante, l'épaisseur de terre insuffisante. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, motuche, bouche cousue. Celui qui a été envoyé au bagne va payer pour tout le monde, mais l'État ne peut pas financer des améliorations. Ils vont le faire au fort de Montenot, parce que vraiment là, on s'aperçoit que les voûtes, elles s'effondrent, alors qu'il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien. C'est vraiment mal fait. Le ciment a été maigre, bon, il y a plein de malfaçons. Mais le fort de Malmaison, on va se dire, bon, maintenant il faut tester la mélinite. Et ils vont faire des essais de mélinite ici en 1886 exactement. On va essayer la mélinite sur le fort. Donc on va installer dans le village de Chavignon et le village de Hézijouy des canons qui vont tirer sur le fort.
L'armée française va tester ses propres munitions en tirant sur ses propres forts.
Voilà, c'est ça. Il faut voir si ces forts, ces fortifications que l'on a construites. Alors attention, il y a plusieurs centaines de forts. Hein. Il n'y a pas que le fort de Malmaison. Hein. Donc on va tester nos canons sur nos forts pour voir l'effet de la mélinite. Alors, il y a plusieurs essais qui sont faits. On va poser des obus au sol, on va mettre des charges d'explosifs par-ci, par-là. Et on s'aperçoit que le fort ne résiste pas. Même la poudrière, qui est le lieu le plus renforcé, est percée par des obus de 220 mm. On va réparer les dégâts. Et puis, on va réfléchir. Enfin, on va réfléchir. Donc, on s'aperçoit que certains forts qui sont sur la première ligne d'arrêt, du côté de Verdun, doivent absolument être renforcés. Et on va débloquer des nouveaux crédits et on va couler des chapes de béton sur les forts de la ceinture de Verdun. Mais ici, on laisse ça comme ça. En 1894, on refait des essais, comme si les premiers n'avaient pas été concluants. Mais là, en 1894, on va essayer les nouveaux canons, le fameux 75, hein, ces nouveaux petits canons de campagne. Et on s'aperçoit que c'est pareil, le fort ne résiste pas même aux petits calibres. Donc, le fort est déclassé en 1898. Il est complètement vidé de tout équipement militaire. Et en 1911, il est mis en vente et il est racheté par un entrepreneur de la région qui va en faire une carrière de pierre. Okay. Donc, il va être démonté par un entrepreneur de maçonnerie. C'est l'aberration du génie français, puisque le général Serré de Rivière n'a pas cherché à avoir la vision de l'évolution de l'artillerie, alors qu'on a dépensé des milliards de francs or à l'époque qui ont été investis là-dedans. Et tous les forts de la ceinture de l'An sont déclassés en 1912. Donc le fort de la Discours, le fort de Montenot, le fort de Montbéreau, le fort de la Malmaison, le fort de Condé. Le fort de Condé, c'est le seul qui va être amélioré, puisque comme il empêche le passage dans la vallée de l'Aisne, ils vont lui installer une casemate de manche. Ça veut dire qu'ils vont mettre un canon sous blindage. C'est le seul qui sera fait, donc ils vont installer 2 gros canons sous casemate, Mais c'est pareil, lorsque les Allemands arrivent ici en 1914, ces forts ont été démilitarisés. Lorsque le général Molk, le général allemand qui arrive de Belgique avec son armée, il ne sait pas que ses forts sont démilitarisés. Il a prévu dans ses bagages d'amener une grosse Bertha, le fameux gros canon allemand de 420 mm qui était chargé de détruire les forts belges, tout ça. Et les forts belges, ils ont été rasés grâce aux grosses Bertha. Et lorsqu'il arrive ici début septembre, la cavalerie allemande découvre les forts à l'abandon, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi, même si ces forts sont obsolètes, pourquoi on n'y a pas installé une garnison, parce que venant de Belgique, il se serait trouvé coincé par ces forts. Avec l'artillerie qu'il y avait dessus, ça aurait pu faire une ligne d'arrêt. Et non, l'état-major français n'a pas eu l'idée de mettre des canons dans ces forts, alors qu'il y a deux casernes d'artillerie à Laon. Ces casernes d'artillerie sont évacuées. Lorsque les Allemands arrivent à Laon, ils trouvent la ville vide. L'armée a quitté la ville. Voilà, tout le monde se replie devant l'armée allemande qui fonce. Ils vont être arrêtés par la bataille de la Marne grâce au taxi, au fameux taxi de la Marne. Et lorsque l'armée allemande se replie ici vers le 15 septembre 1914, ils vont se dire, on va utiliser ces forts. Et ils vont utiliser ces forts comme ligne d'arrêt. Et les Français vont se retrouver coincés de l'autre côté dans la vallée de l'Aisne. C'est-à-dire que les Allemands vont être sur le plateau du chemin des Dames, vont occuper les forts et la ville de Laon, et les Français se retrouvent dans les marais au pied du chemin des Dames. Donc on va passer tout l'hiver 1914 comme ça. Au printemps 1915, avril 1915, le colonel Nivelle, colonel à l'époque, fait partie de l'offensive que Joffre va lancer pour reprendre le chemin des Dames. Donc ce sont les batailles du printemps 1915. Les Français vont réussir à s'approcher, à sortir des marais de l'Aisne et à s'approcher du chemin des Dames et à se fixer sur les pentes sud du chemin des Dames. Et ils vont y rester jusqu'en 1917. Alors, il faut s'imaginer, c'est que le chemin des Dames est un lieu calme, puisqu'en 1916, on envoie les troupes qui descendent de Verdun au repos au chemin des Dames. Donc c'est un site très calme. Dans le livre de Nobécourt, Les Fantassins du chemin des Dames, il raconte qu'au mois d'avril 1916, eh bien, les Allemands et les Français se retrouvent dans les bois pour cueillir les morilles. Et ils vont aux morilles, ils vont aux champignons, et quelquefois deux patrouilles se rencontrent et se tirent dessus. Mais les Allemands, qui sont des terrassiers de naissance, vont fortifier ces forts. Le fort de Malmaison va subir les bétonnages que les Français n'ont pas voulu faire. Parce qu'ici, on est dans un endroit du chemin des Dames. D'un côté, au sud, on a la vallée de l'Aisne, avec le fort de Condé qui est en face, qui est aussi aux mains des Allemands. Et de l'autre côté, là, on est au bord du plateau, on a vue directe sur la vallée de l'Aisne et la ville de Laon. Et donc, les Allemands vont installer dans ce fort, ils vont faire un observatoire en béton armé, qui permet d'avoir une vue à 360 degrés de tout le périmètre. Et ils vont fortifier tout autour, avec ici dans le champ, là quelques dizaines de mètres, il y a un petit blocos, il y en a un autre là, il y en a un autre là-bas, et ils vont bétonner, fortifier tout ce secteur. Voilà. Au mois d'avril 1917, quand le général Nivelle déclenche sa grande offensive du 16 avril, les Français sont au courant de toutes ces fortifications qui ont été faites par les Allemands, puisque des déserteurs allemands, des Alsaciens, des Lorrains, des Mosellans, vont prévenir les troupes françaises. Attention, les Allemands ont fortifié les carrières souterraines, ils ont fortifié les premières lignes avec des blocos, ils vous attendent de pied ferme. Mais il y a 1,5 million de soldats qui sont prêts à monter à l'assaut. En plus, au lieu de faire une offensive à effectif réduit ou à objectif réduit, on va attaquer de Soissons jusqu'à Reims, sachant que les Allemands sont préparés. La semaine avant le 16 avril, Les observations aériennes montrent que les destructions, les bombardements n'ont pas détruit les réseaux de barbelés. Les patrouilles signalent que les premières lignes allemandes qui devraient être écrasées sont toujours occupées par les Allemands. Et surtout, c'est qu'il y a des patrouilles qui signalent que les carrières du chemin des dames, il y a des fortes activités autour des carrières, donc ils savent qu'il y a du monde sous terre. Mais Nivelles attaque quand même le 16 avril 17. Et puis après, on sait ce qui se passe. Il a dit, si dans les premiers 48 heures de l'offensive, on ne perce pas, j'arrêterai. Et il arrêtera au mois de mai, au moment des mutineries. C'est les mutineries qui vont arrêter les offensives du chemin des dames. Et c'est là où le maréchal, le général Pétain, rentrera en action.
Les offensives Nivelles, c'est du 10 à 15 000 morts par jour, oui. Ou quelque chose comme ça. Et quand tu dis petit blocos, ça veut dire dedans une mitrailleuse. Et avec ça, on fauche des dizaines de fantassins à la minute.
Dans le livre « Les fantassins du chemin des dames », un soldat du 320e régiment d'infanterie raconte qu'ils attaquent, ils partent des bas du chemin des dames à Craonne, et ils montent la colline sous le feu des mitrailleuses. Et lorsqu'ils arrivent dans les premières lignes, ils s'aperçoivent qu'on leur tire dans le dos. Parce que des mitrailleuses qui étaient cachées dans les souterrains sont sorties par les Allemands. Et ils se retrouvent entre le feu de la deuxième ligne et le feu de la première ligne. Ça a été un massacre, puisque en 6 semaines, il y a eu 360 000 morts au chemin des dames. C'est un massacre. Nivelles, qui connaissait le chemin des dames, puisqu'il était là aux offensives de printemps 1915, savait la difficulté du terrain. Il n'en a pas tenu compte.
Enfin, lui, il était à l'état-major avec ses cartes et son café chaud, pendant que les autres étaient au turbin en première ligne. Quoi.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1917, Nivelles a son aura de Verlin. Parce que Nivelles a repris le fort de Douaumont le 24 octobre 1916. Il a réutilisé les techniques allemandes, ce qu'on appelait les Sturmtruppen, ça veut dire les bataillons de choc. Et surtout, il a utilisé ce que les Allemands ont utilisé un peu partout, c'est le bombardement roulant. Et il a réutilisé les techniques allemandes à Verdun pour reprendre le fort de Douaumont. Le fort de Douaumont qui n'était pas occupé par les Allemands, donc voilà. Mais lorsqu'il arrive après la bataille de Verdun, il a une aura. En plus, il parle très bien l'anglais, hein, il est bilingue. Grâce à sa famille, il a des portes ouvertes avec les politiques, tout ça. Donc, c'est le sauveur de la France, Nivelles, en 17, hein. Voilà. Pourtant, il sait très bien que le morceau va être dur à avaler.
Des fortifications coûteuses et inutiles, on pourrait aussi penser à la ligne Maginot de la guerre d'après. Des troupes que l'on envoie se faire massacrer selon des tactiques militaires dépassées, sans prendre en compte les innovations technologiques militaires, comme envoyer des masses de troupes à la Napoléon face à des mitrailleuses du XXe siècle. La lamentable histoire du fort de la Malmaison semble nous rappeler cette permanence dans l'histoire de l'armée française qui a souvent eu une guerre de retard ou une défaite d'avance. Cette armée française a surtout été une armée coloniale habituée à envahir et à écraser des populations militairement sous-équipées. Mais c'était une autre paire de manches quand il s'agissait de se battre contre les Allemands. Et puis quand aujourd'hui vous entendez des imbéciles nous dire qu'il faudrait faire la guerre, notamment à des pays qui ne nous ont rien fait, rendez-vous donc sur la place centrale de n'importe quel village de France et prenez donc la peine d'y lire les interminables listes des noms de ceux qu'on a envoyés se faire massacrer en 14-18 et lors des boucheries suivantes. 14-18 du côté français, c'est au bas mot 1 500 000 morts, sans compter des centaines de milliers de blessés, gueules cassées, gazées, de veuves, d'orphelins, de parents en deuil. Tout ça pour le bonheur de marchands de canons. C'est sur ces considérations que s'achève cette première partie de cette balade avec Didier Ledet, qu'on remercie, et qu'on retrouvera lors d'un prochain épisode pour la suite de notre exploration de ce tronçon du sinistre chemin des dames. Reportage à réécouter sur notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio préférée. Guerre à la guerre, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.